Je remercie le groupe Louange de nous avoir entraînés dans ce beau moment. Et maintenant, en lieu et place du message traditionnel, j'appelle la famille Bonvala, Gilles, Myriam. Leurs garçons sont venus avec nous, ils n'ont peut-être pas envie de venir devant, mais vous nous les présenterez. Vous travaillez pour M, A-I-M-E. D'ailleurs, c'est vraiment beau. Vous allez nous expliquer ce que c'est et nous parler de votre travail de mission et en Afrique. Ma place dans l'histoire de Dieu.
Bonjour à chacun. C'est vraiment une grande, grande joie d'être avec vous, en particulier de venir visiter Yvonne, qui est une amie de longue date avec qui on a partagé des moments au Congo. Et ce matin, on va parler de ma place dans l'histoire de Dieu. Et donc, on ne va pas prendre trop de temps pour parler de notre histoire à nous. Mais on voulait quand même un petit peu se présenter, que vous fassiez connaissance avec notre famille. Donc voilà, on était partis à deux en 1996 en Afrique et on est revenus à cinq. C'est une grande bénédiction de la mission déjà. Donc pour faire très résumé, on s'est marié avec Gilles en ayant des parcours de vie très très différents. Et ce qui était vraiment commun à nous deux lors de notre mariage, c'est notre désir de mettre et notre amour et nos formations au service de Dieu. On était tous les deux fraîchement diplômés, Gilles de l'EPFL et moi de l'école de physio. Et on était en réflexion de savoir comment on allait servir Dieu. Et un des déclics, ça a été quand on a compris que l'appel de Dieu, c'est pas tant une question de Dieu qu'une réponse de notre part. Pendant un moment, on attendait que Dieu nous appelle. Et un jour, on s'est dit, mais en fait, toute la Bible nous appelle. L'appel est très clair. Ce que Dieu attend maintenant de notre part, c'est notre réponse. Et on a offert une page blanche à Dieu en disant, voilà, envoie-nous où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et donc, ça a commencé par une année à l'Institut biblique de Genève. Très utile pour s'équiper. Et c'est un petit peu pendant cette année que les plans sont dessinés. Et on est parti, en fait, on aurait dû partir en 1996 à Nyankunde, au Centre médical évangélique, donc en RDC, en partenariat avec la DDC, le SME et AIM. C'était un petit peu une histoire, voilà, pour 2 ans, qui se sont transformés en 18 ans, mais bien variés. Donc, quand vous vous engagez avec Dieu, vous savez jamais pourquoi vous signez, hein. Ça peut changer.
C'est un CDD.
Ouais, c'est un CDD. Et voilà, alors, en fait, comme il y avait la guerre au Congo, enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on a fait un détour d'une année au Kenya, après finalement, on a pu arriver au Congo. Et là-bas, on a passé 6 années assez mouvementées, vu que c'était 6 années de guerre, qui ont été parsemées de plusieurs évacuations, mais aussi des années incroyables, des années où l'insécurité et la difficulté, en fait, nous ont vraiment bousculé dans les bras de Dieu, nous ont appris à dépendre de Dieu, où on a collaboré avec des collègues congolais incroyables qui nous ont appris, vraiment, ils nous ont appris à dépendre de Dieu, ils le vivaient au quotidien. Et nous qui étions partis un petit peu avec l'idéal, vous savez, on est jeunes, voilà, on est formés de sauver le monde. En fait, c'est nous qui avons été vraiment transformés par tout ce qu'on a pu vivre là-bas, par les gens qu'on a rencontrés, parce qu'ils nous ont appris. Et c'est clair que c'est pas des situations confortables, hein, quand on est des bons Suisses, vivre la guerre, c'est tout un apprentissage. Mais c'est vraiment, on s'est rendu compte dans ces moments parfois un petit peu extrêmes, que d'être là où Dieu nous veut, c'est vraiment le meilleur endroit, même si c'est pas tout facile. En 2002, moi je sais pas si vous avez suivi peut-être un petit peu par Yvonne, mais il y a eu donc une attaque, voilà, la Grande Guerre. On était là-bas, on a réussi à évacuer de justesse, et voilà, ça a suscité beaucoup de questions dans nos vies. Mais une chose a été très claire, c'est que si Dieu nous avait gardé en vie, c'est qu'il voulait encore nous utiliser. Et donc après une année de guérison, je dirais ici en Suisse, on est reparti pour le Rwanda, donc dans des projets un petit peu différents. Au Congo, on était surtout investi dans nos professions, dans la formation et dans l'église. Et au Rwanda, en fait, on a démarré une ONG pour représenter notre mission AIM qui n'était pas représentée au Rwanda. Et là, on a travaillé surtout avec la jeunesse, soit dans les écoles, soit dans des camps, des projets de réconciliation, dans des projets d'enseignement de curriculum, de compétences de vie. Le Rwanda est un pays très particulier Et ça a été étonnamment presque plus difficile de vivre au Rwanda qu'au Congo en guerre. Voilà, donc beaucoup de surprises. On n'a pas le temps maintenant de vous parler de tous les projets qu'on a vécu au Rwanda. Si vous revenez ce soir à la réunion des jeunes adultes, vous en entendrez plus. Mais voilà, là, ou bien après, pendant le repas, vous pouvez nous poser des questions, on en parlera volontiers. Mais Gilles m'a donné que 5 minutes, alors il faut que je fasse attention. Et puis voilà, au fil des années, petit à petit, on s'était dit que, comme on est quand même parti assez longtemps, le jour où on verrait que nos parents auraient besoin de nous, eh bien, on rentrerait en Suisse. Et tout d'un coup, il y a 3 ans, eh bien, on s'est rendu compte que c'était le moment. Donc, c'était pas une décision très facile à prendre que de quitter le Rwanda où les choses enfin allaient de l'avant, étaient vraiment enthousiasmantes, les projets de camp avaient vraiment bien démarré. Mais en même temps, on a vraiment la paix dans notre cœur que c'était le moment de revenir ici. Et on regrette pas. Et donc, on est rentré en Suisse et on a aussi le privilège de pouvoir poursuivre notre travail missionnaire, disons, en continuant à travailler pour IEM. Donc, IEM, enfin, on en parlera un petit peu plus après, c'est une mission assez importante qui a à peu près 1000 missionnaires sur le terrain en Afrique, mais qui n'a pas de missionnaires francophones. Et pourtant, on travaille dans plus de 16 pays francophones et de plus en plus dans beaucoup de pays fermés qui sont francophones. Et donc, notre défi, c'est de vraiment contaminer des francophones à partir en Afrique francophone. Voilà, c'est un petit peu notre rôle maintenant. Et voilà, on est déjà à 5 maintenant. On se multiplie, c'est encourageant. Et puis un autre engagement qu'on a, c'est aussi auprès de l'Institut biblique de Genève. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une formation qu'on a appelée le Pôle Mission Transculturelle qui a démarré cette année, qui offre la possibilité, soit en 2 ans, soit en 4 ans, à des gens qui veulent travailler dans un contexte transculturel, de se former d'une manière théologique, académique, mais aussi très pratique. Et donc, on fait partie du comité qui est en train de mettre ça sur place, et de préparation des cours, et préparation des stages, et voilà. Et pour nous, c'est vraiment un immense privilège de pouvoir s'investir à transmettre un petit peu ce que Dieu nous a enseigné pendant toutes ces années. Le verset qu'on nous avait donné le jour de notre culte d'envoi, donc en 1996, donc ça fait un petit moment, c'était celui de 2 Corinthiens 4, 1. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Dans d'autres versions, c'est par la grâce de Dieu. Et vraiment, ce que j'aimerais dire, si on devait choisir un mot pour résumer toutes ces années au service de Dieu, c'est vraiment privilégié. C'est pas facile. Il y a des moments de beaucoup d'interrogations, de côtoyer aussi beaucoup de souffrances ou d'incompréhension. Mais je crois que vraiment le terme de privilégié, on a vraiment l'impression que c'est une grâce d'avoir pu servir Dieu toutes ces années là-bas et de pouvoir continuer à le faire ici.
Merci. Je vous propose maintenant de regarder juste une petite vidéo qui présente la mission IEM. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce qu'on fait et quelle est la vision de la mission en Afrique.
C'est l'Afrique. C'est chez moi. L'Afrique, c'est bien plus qu'un continent entouré de mystères et défini par les guerres et les famines. L'Afrique, ce n'est pas un rejeton du tiers-monde, abandonné et sans espoir. L'Afrique, c'est... l'imprévu. Par-dessus tout, l'Afrique, c'est les gens. Mille millions d'âmes, des milliers de cultures et de groupes ethniques uniques, parla 2000 langues. Répartis dans 57 pays africains et à travers le monde entier. Personne magnifique, colorée, hospitalière, spirituelle. L'Afrique, c'est aussi l'Église. Croissante, pleine d'espoir, mais faisant face à d'immenses défis.
Aujourd'hui, plus de 900 tribus africaines n'ont jamais entendu l'Évangile et sont sans témoignage vibrant de la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Des centaines de millions de gens vivent derrière des barrières politiques, géographiques et même religieuses.
C'est l'Afrique. C'est aussi chez moi. Depuis plus d'un siècle, Africa Inland Mission cherche à renverser ces barrières par des gens qui sont motivés par l'amour de Christ et par la grande mission.
Africa Inland Mission, c'est un millier de missionnaires qui servent dans plus que 20 pays en collaboration avec des centaines d'églises africaines unies par un seul objectif, établir des églises centrées sur Christ parmi tous les peuples d'Afrique. Des communautés de croyants qui témoignent de vies transformées, qui proclament Christ et qui font des disciples. Africa Inland Mission rejoint Dieu dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir en Afrique et parmi les peuples africains. Rejoint par un nombre incalculable de chrétiens priants et de partenaires financiers de partout dans le monde. Rejoignons l'Église africaine dans l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ aux extrémités de la terre.
Ma place dans l'histoire de Dieu, c'est le titre qu'on a donné ce matin à notre réflexion. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Dieu? Où est ma place dans cette histoire? On a eu quelques aperçus ce matin de l'histoire de Dieu. On a parlé de la famille locale. On est parti un peu en Afrique avec le témoignage de Myriam, avec ce film. C'est un tout petit peu de l'histoire de Dieu. On va parler du Laos tout à l'heure avec la famille Probst. Ça nous donne quelques clins d'œil, quelques aperçus de l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu, c'est grand, c'est très grand. Et je te lance le défi ce matin d'essayer de réfléchir à quelle est ta place dans cette histoire de Dieu. Alors pour prendre la bonne place dans l'histoire de Dieu, il faut déjà connaître un peu l'histoire de Dieu. Alors je vais essayer en quelques minutes de vous parler de l'histoire de Dieu. C'est sûr qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps et on pourrait aller beaucoup plus dans les détails, mais on va faire un petit survol ce matin pour essayer de comprendre tout ça. Dieu est éternel et son histoire aussi. La Bible, elle commence par ces mots, au commencement Dieu. Au commencement Dieu créa. Il créa l'univers, il créa la terre. Il créa les êtres vivants, et il créa l'homme et la femme à son image. Et tout cela était parfait. L'homme et la femme vivaient en parfaite harmonie avec Dieu, jusqu'à ce que l'homme et la femme commettent l'irréparable et désobéissent à Dieu, et se privent ainsi d'une relation privilégiée avec Dieu. Et c'est dès ce moment-là qu'on découvre dans la Bible la révélation de la mission rédemptrice de Dieu. Tout le message de la Bible, au fait, consiste à nous dévoiler son plan, le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Un plan incroyable d'un Dieu plein d'amour pour nous racheter, pour racheter l'humanité, pour rétablir cette relation privilégiée qui a été perdue par Adam et Ève. La Bible, c'est l'histoire de la mission de Dieu. C'est la révélation d'un Dieu missionnaire. Et je t'encourage ce matin, peut-être, pas à le faire ce matin, mais à le faire plus tard, de relire la Bible avec cette perspective de cette mission de Dieu pour toutes les nations. Et on est étonné de toutes les références qui sont faites dans l'Ancien Testament par rapport aux nations. La révélation commence, donc la révélation de ce plan commence vraiment dans le chapitre 12 de la Genèse, même si elle est très brièvement exposée dans Genèse 3. Et elle commence avec une alliance conclue entre Dieu et un homme qui s'appelle Abraham, qui est né en Chaldée, qui est l'Irak actuel. Cette alliance, c'est celle-ci, on peut la lire dans Genèse 12, les trois premiers versets. Je vais vous la lire. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu fait une alliance avec Abraham. Par cette alliance, on voit que l'intérêt de Dieu ne se limite pas juste à un homme ou à un peuple, mais bien à créer une nation en vue d'une mission mondiale, qui est de communiquer le message du salut à toutes les autres nations. Et une grande partie de l'Ancien Testament, c'est le récit de l'histoire de cette nation, de la naissance de cette nation, du peuple hébreu, de ses choix, de ses engagements et des conséquences de ses actes d'obéissance ou de désobéissance à Dieu. Israël n'est pas seulement un peuple choisi, élu par Dieu, mais Israël est le peuple choisi par Dieu pour être une bénédiction pour toutes les autres peuples, toutes les autres nations. Alors vous connaissez l'histoire, Israël n'a pas vraiment réussi à respecter les engagements de cette alliance. Dieu lui a été fidèle. Il l'a utilisé à plusieurs reprises pour bénir certaines nations, malgré sa désobéissance. Comme on peut le voir dans beaucoup de récits, quand on lit Jonas, on lit Esther, Daniel, Joseph, même parfois des tout petits personnages comme la servante de Naaman, etc. Il y a plus de 50 références à cette alliance et à cette bénédiction pour les autres nations dans l'Ancien Testament. Et tous ces récits de l'Ancien Testament se prolongent dans le Nouveau Testament, par les paroles de Jésus, qui dit aux apôtres, « Faites des disciples de toutes les nations. » C'est le prolongement de l'alliance faite par Dieu à Abraham. Et c'est là la grande mission de l'Église. On appelle ça la grande mission, le grand mandat, l'ordre suprême. Plusieurs termes sont utilisés. En anglais, c'est « the Great Commission », qu'on ne peut pas traduire littéralement, qui parle donc de cette grande mission donnée à l'Église. Et si nous sommes là aujourd'hui, toi, moi, c'est parce qu'on a hérité des bénédictions de l'alliance d'Abraham, comme Paul l'explique dans un verset dans Galates, où il dit « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc si nous nous identifions à Christ par une foi personnelle, alors nous sommes descendants d'Abraham et nous bénéficions aussi de ses bénédictions selon l'alliance. Et donc, nous devons être des hommes et des femmes bénis par Dieu à cause de cette alliance, mais aussi être source de bénédiction. Et c'est là le défi qu'on a à relever. Ne pas garder ces bénédictions pour nous, mais les propager pour le reste du monde. C'est être des chrétiens qui ont le cœur de Dieu pour tous les peuples du monde. Et Dieu n'attend pas des hommes exceptionnels pour ça. Quelqu'un a dit que nous n'avons pas un Dieu ordinaire qui utilise des hommes exceptionnels, mais nous avons un Dieu exceptionnel qui utilise des hommes et des femmes ordinaires. Concrètement, Dieu t'appelle à vivre l'amour de Christ et à proclamer le message de la bonne nouvelle. Premièrement, là où tu es, mais aussi là où Dieu peut te conduire. Et il peut nous surprendre. Alors l'histoire de Dieu aujourd'hui, elle en est où? En 2016, où en est cette grande mission dont nous avons parlé juste à l'instant? Alors j'aimerais te donner quelques grandes lignes de l'histoire de la mission qui a fait d'énormes progrès ces deux derniers siècles, surtout à cause de l'engagement des protestants. Alors la première phase de cette expansion du christianisme s'est faite sur l'impulsion d'un homme nommé William Carey, qui était âgé de moins de 30 ans quand il a lancé sa vision de la mission, et c'était à la fin du 18e. Et c'est lui qui est l'initiateur des sociétés missionnaires que l'on connaît aujourd'hui. William Carey, par sa vision, a amené l'Église protestante en Europe et en Amérique à se réveiller pour prendre ses responsabilités dans l'évangélisation du monde. À cela s'en est suivie une deuxième phase, dans la deuxième moitié du 19e, avec toute une série de missions qui se sont axées vers l'intérieur des terres, spécifiquement en Asie et en Afrique. Et vous n'êtes pas sans connaître la mission à l'intérieur de la Chine, fondée par Hudson Taylor, ou bien même l'IM dont on parle ce matin, qui est aussi issue de cette deuxième phase, qui elle allait à l'intérieur de l'Afrique. Et aujourd'hui, il y a une troisième phase qui est en cours, qui a débuté dans les années 80, qui a été initiée par un homme appelé Cameron Townsend, et qui s'est demandé ou qui s'est inquiété de tous ces peuples qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Ces peuples qu'on appelle les peuples non atteints. C'est lui notamment qui a fondé la société Wycliffe, qui a pour but donc d'apporter les Écritures dans la langue de chaque tribu. Pour résumer donc ces deux siècles rapidement, on a une première phase qui a été orientée vers les côtes, sous l'impulsion de William Carey. On a une deuxième phase qui est allée à l'intérieur des terres, en Afrique et en Asie. Et aujourd'hui, on a une troisième phase qui n'est pas vraiment limitée géographiquement, mais qui a pour objectif d'atteindre les peuples non atteints. Notre mission IM a réfléchi ces dernières années sur sa vision, sur sa stratégie et sur la finalité de son travail. Elle s'est posée la question, mais quand c'est qu'on va mettre la clé sous le paillasson? On va dire, le travail est fini, on peut rentrer à la maison. Est-ce que l'histoire de Dieu aura une fin? Quand est-ce que la mission donnée par Dieu sera-t-elle accomplie? Pour trouver un élément de réponse, on peut lire un écrit de Jean dans sa révélation dans l'Apocalypse, au verset 9 du chapitre 7, il dit ceci. Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Dans ce verset, on comprend donc que le retour de Christ se fera une fois que toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus auront entendu le message de la bonne nouvelle. C'est là l'objectif final de notre mission. C'est que tous les peuples puissent se prosterner devant le trône de l'agneau. Alors où en sommes-nous dans cette mission d'atteindre tous les peuples? Il y a un organisme qui s'appelle le projet Joshua qui essaye d'évaluer tout ça. Et ils ont dénombré tous les peuples de la terre. Alors les peuples, quand on parle de peuples dans la Bible ici, c'est pas les nations ou les pays tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais c'est vraiment des groupes de gens qui partagent une même langue, des mêmes coutumes et plutôt une même région. Okay, donc on arrive à plus de 16 000 peuples qui sont sur la terre. Si on prend au Congo, par exemple, il y a au moins 400 tribus dans ce pays. On n'a pas un peuple congolais, mais on a 400 tribus qui vivent dans ce pays. Et parmi ces 16 000 peuples, il y en a 6 664 aujourd'hui, alors ça change chaque jour ou chaque semaine. Aujourd'hui, il y en a à peu près 6 660 qui sont pas atteints, c'est-à-dire qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Alors comme l'IM travaille en Afrique, j'ai une colonne avec les peuples en Afrique, mais bien sûr que tous les peuples non atteints ne sont pas uniquement en Afrique. On voit quand même qu'on a presque la moitié de la population, hein, 3 milliards de personnes sur les 7,3, qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Conclusion, il y a encore du travail. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'arrêter dans la mission transculturelle. Seulement aujourd'hui, je crois qu'on est en train de vivre un grand tournant dans la mission. Il y a des choses exceptionnelles qui se passent, extraordinaires, et il y a un contexte aussi très particulier qui se met en place. Et ces deux siècles de mission arrivent peut-être à un terme dans la façon de fonctionner et dans la mission globale, mondiale, et qu'il y a de nouveaux éléments qui rentrent en ligne de compte. Et j'aimerais juste vous présenter un petit peu trois tendances de la mission aujourd'hui. Alors comme j'ai dit, la mission évangélique, elle existe depuis plus de 200 ans. Je crois que c'est la phrase, voilà. Et elle a été efficace. Donc pendant 200 années, on a ce qu'on appelle les pays du Nord, donc l'Amérique, l'Europe et le Pacifique, même si c'est au Sud, on le met dans le groupe du Nord. Donc ça, c'est ceux qui sont partis en mission. Et on a les groupes du Sud, qui sont l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, qui ont reçu ces missionnaires ou qui ont été l'objectif de ces missionnaires. Et pendant ces 200 années, Dieu a travaillé à travers ces missionnaires pour arriver à ces chiffres-là, où aujourd'hui, le nombre de chrétiens est beaucoup plus important dans le Sud que dans le Nord. On arrive à une proportion de 1 chrétien dans le Nord pour 4 dans le Sud. Alors qu'au départ, c'était complètement l'inverse. Hein. On avait que des chrétiens au Nord. Donc le travail a été efficace, la mission a porté des fruits. Et il y a même une projection pour 2050 où on aurait 5 chrétiens dans le Sud pour un seul dans le Nord. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que la force missionnaire, elle change d'endroit. Ce n'est plus dans le Nord qu'on va trouver nos missionnaires, mais ça va être dans le Sud, puisque c'est là où il y aura le plus de chrétiens, c'est là où il y aura le plus de personnes qui vont partir dans la mission. Et aujourd'hui, le Sud réalise que l'Église du Sud doit aussi participer à la mission mondiale. Et ça change radicalement la vision de la mission. Donc c'est la première tendance, le champ missionnaire est devenu la force missionnaire. Ça implique que nous devons nous impliquer différemment dans la mission. Et du rôle d'annonceur de la bonne nouvelle, on passe plutôt à celui de formateur, d'encadreur, d'encouragement pour les églises du Sud à partir en mission et à profiter de l'expérience que nous avons de la mission. La deuxième tendance se calque sur l'actualité de ces derniers mois, de ces dernières années, c'est par rapport à l'islam. L'islam devient très présent dans les journaux, dans notre évangélisation aussi. Et on a un peu de peine à cerner l'islam. Est-ce que c'est une marée montante ou une marée descendante ? Est-ce que l'islam va devenir une force très puissante ou au contraire va éclater avec tous ces groupuscules qui se développent. On ne sait pas vraiment, mais ce qu'on sait, c'est que l'islam est présent. Et c'est une composante importante de la mission. Et ça va aussi dépendre, ça va aussi changer un peu la façon dont on est missionnaire dans ces pays. L'islam, c'est ce qu'on appelle des pays fermés. Hein, c'est difficile d'atteindre ces pays. On parle d'une fenêtre des 10-40 qui est un carré sur la map monde entre le 10e et le 40e parallèle et qui représente tous ces pays à influence musulmane, bouddhiste ou hindouiste et qui sont difficiles d'accès parce qu'on ne peut pas aller là-bas en disant on vient prêcher l'évangile, contrairement à beaucoup d'autres pays. Et donc il faut trouver de nouvelles façons de s'introduire dans ces pays. Comment est-ce qu'on peut aller vivre là-bas et partager l'amour de Christ sans brandir une Bible au-dessus de la tête. L'autre problème, c'est que de toutes les forces missionnaires qui sont investies dans le monde, il n'y a seulement que quelques pourcents, moins de 5%, de toutes ces forces qui sont engagées dans cette fenêtre des 10-40. Tout le reste, on le fait plus au sud, plus au nord, où c'est beaucoup plus facile de faire la mission la plupart du temps. Donc les missions doivent trouver des moyens pour pouvoir pénétrer dans ces pays et évangéliser ces pays. Et il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ces pays, des façons très originales de partager l'amour de Christ. On n'a pas le temps malheureusement d'en parler ce matin, mais vous pouvez faire un peu de recherche et lire ces histoires qui montrent la grandeur de Dieu aussi dans des situations qui nous paraissent parfois impossibles. La troisième tendance, je l'ai appelée la glocalisation. Alors, il n'y a pas une faute de frappe. C'est certainement un mot que vous ne trouvez pas dans le Larousse. C'est une contraction de deux termes, le global et le local, la globalisation et la localisation. C'est ce qui est glocal. Ça ne vous aide pas beaucoup. C'est penser ce qui est global et puis le rapporter à du local. C'est faire de quelque chose de global et puis de l'adapter localement partout. La monnaie de l'euro est un exemple. Si vous prenez une pièce d'euro, vous avez d'un côté l'identité communautaire, un symbole de l'Europe, et de l'autre côté, vous avez l'identité des pays représentés. Aujourd'hui, les communications nous permettent de penser globalement et d'agir localement. Comment cela se reflète-t-il dans le monde? Par exemple, le téléphone mobile. Je crois que maintenant, on couvre à peu près 90% de la population avec la téléphonie. Quand on était à Nyan Koundé en 96, communiquer avec l'Europe, ça nous prenait facilement un mois, voire 6 semaines. Le temps d'écrire la lettre, de la donner à l'avion qui partait, qui venait une fois par semaine, qui l'emmenait ailleurs en Afrique. Après, ça partait en Europe. Le temps de réponse, tout ça, c'était très très long, les communications. Aujourd'hui, bien sûr, c'est instantané avec toute cette téléphonie mobile. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet aussi un accès aux réseaux sociaux. Alors, ces chiffres datent un tout petit peu. On ne voit pas très bien. Cette affiche a été faite en 2011 et j'ai corrigé les chiffres pour 2014 où on trouve 83 millions d'Arabes qui ont accès à Facebook. Donc de 2011 à 2014, ça a pratiquement doublé le nombre de personnes dans le monde musulman qui ont pu accéder à Facebook. Donc ça permet d'avoir Facebook a des endroits qui sont difficilement accessibles. Comme je disais tout à l'heure, il y a des pays où en tant que chrétien, on ne peut pas accéder. Mais avec Facebook, on n'a pas besoin de passer de frontières pour atteindre des personnes dans ces régions-là. Ça implique aussi la Bible. Oula, ça sort de l'écran. La Bible à portée de main pour beaucoup de personnes. Ça, ce sont deux sites qui proposent la Bible sur Internet, qui propose même de prendre des engagements pour Christ ou de suivre un discipulat. Et chaque fois que vous avez un petit truc qui clignote, là, c'est quelqu'un dans le monde qui accède à la Bible. C'est impressionnant, hein? Et là, on a à droite, on a les chiffres. Alors là, c'est pas en direct, hein, parce qu'on n'a pas la connexion ici. J'ai filmé mon écran un petit moment. Et ça, c'était dans la matinée. Donc en fin de journée, on arrive pas loin du million de personnes qui ont consulté un verset biblique par Internet. Et ça, c'est seulement sur quelques sites. Si on prend tous les sites qui sont sur Internet, ça fait encore beaucoup plus. Donc il y a un moyen de diffuser la parole d'une façon nouvelle et originale. Ensuite, cette glocalisation aussi, ça amène beaucoup de déplacements. Et ça permet à des peuples de venir frapper à nos portes. J'ai pas besoin de parler des migrants aujourd'hui qui arrivent chez nous, qui arrivent en Europe, mais même beaucoup d'autres peuples viennent proches des grandes villes et deviennent accessibles sans que nous ayons besoin de nous déplacer. Par exemple, à Marseille, il y a toute une communauté de Comoriens qui vit là-bas et qui sont facilement plus accessibles pour nous puisqu'on n'a pas besoin de se déplacer et d'aller vivre aux Comores. Et dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup de communautés qui se développent, des diasporas qui se développent autour de nos églises. Alors les implications de cette globalisation, c'est à nous de ne pas rater cette marche de la technologie et de l'utiliser à bon escient, dans le bon sens, pour participer à la grande mission. C'est aussi d'équiper les églises à utiliser ces outils et à ne pas rester en arrière. Et les mobiles marchent bien ici aussi. Voilà, donc ces trois petites tendances, il y en a d'autres, mais qui montrent un petit peu aussi l'évolution de la mission aujourd'hui et un peu les nouveaux paradigmes de la mission aujourd'hui. J'aimerais encore vous présenter un outil que la mission a mis au point, qui s'appelle Timo, qui permet d'atteindre ces peuples qui sont dans des endroits très reculés, et même ces peuples parfois qui n'ont encore aujourd'hui pas du tout de communication avec l'extérieur. Je ne sais pas si mon collègue là-haut peut lancer la vidéo.
It's human nature. We tend to save the hardest work for last. So it makes sense that the people in the world who still have never been told about Jesus Christ are some of the hardest people to tell. Maybe it's for political reasons. Maybe it's for religious. Or maybe they're just really hard to get to.
Sean, would you like some coffee?
Sure, Carly. I'll have a caramel mocha latte.
How about black?
Yeah, make mine black. Take these people, for example. They live an 8-hour hike away from the nearest road, and through Timo, Carly and I can live among them.
Timo is 2 years of missions training. It's a comprehensive academic study.
The foundation of our ministry is built upon relationships. We immerse ourselves in their culture, and we join in what they do so that we can build these relationships and share Christ's love.
I can hardly remember today what I studied in a seminary class 3 years ago. The difference here is that we actually live it. For example, when I'm studying about spiritual warfare, and then I go out into the village and I'm interacting with the witch doctor, I see a direct correlation with what I studied and what I'm experiencing. And that is extremely valuable.
It's really exciting to see what's been happening in the team members' lives. They've come not knowing what they're getting into and discovering they have gifts they never knew they had. It's an exciting opportunity. It really is.
Basically, Timo is a 2-year foundation using certain core values such as language learning, simple living, and relationship building
to prepare for a lifetime of ministry. How about black? This is just one team, but Timo's placed over 40 teams in some of the most extreme environments, from desert nomads to urban centers, from Muslim areas to jungle peoples. But there are so many people in so many places in Africa that still have no opportunity of hearing about Jesus Christ. Timo will be placing up to 10 teams a year in some of the most difficult places in Africa. Yes, it sounds impossibly hard, and without God's leading, it is. But think about it. What higher privilege is there than to share your faith with a friend who has no other chance of hearing it?
Entendre des histoires extraordinaires qui sont passées avec les équipes Timo. Venez manger près de nous à midi et on vous racontera. Il y a des choses géniales qui se passent. Voilà, donc on a fait un petit survol très bref de l'histoire de Dieu et de la situation de l'Église aujourd'hui par rapport à ce grand mandat, à cet ordre suprême de la grande mission. Alors je ne sais pas si cela te donne une petite idée de la place que tu peux prendre dans l'histoire de Dieu. On a chacun un rôle à jouer dans cette histoire. Il y a ceux qui partent dans une autre culture pour annoncer l'Évangile, mais il y a aussi et surtout ceux qui restent pour soutenir ceux qui partent. Il y a ceux qui sont envoyés et il y a ceux qui envoient. John Piper, je pense que vous le connaissez, il parle de trois sortes de chrétiens. Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui envoient, et la troisième sorte, c'est ceux qui désobéissent. Romains 10, 14, 15 dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On a ici un travail d'équipe, un travail qui se fait au sein de l'Église locale. L'Église locale, elle participe par la prière, par le soutien matériel, par le soutien moral de ceux qu'elle envoie. Et chacun peut y trouver sa place. Mais surtout, chacun doit être à sa place dans ce grand mandat, car c'est Dieu qui nous le demande. Alors Marie nous a expliqué un petit peu vos projets, votre engagement dans ce grand mandat. Et c'est encourageant de voir que vous n'êtes pas en reste avec vos activités locales et sociales, avec votre évangélisation, avec certaines personnes missionnaires, d'autres qui partent. Donc vous faites partie déjà, vous êtes engagé dans ce grand mandat. Mais il y a encore de la place, il y a encore des possibilités qui s'ouvrent pour ceux qui ne sauraient pas où est leur place dans cette histoire. Il reste bien d'autres aussi opportunités de s'engager. Les agences et les organisations missionnaires ont beaucoup d'opportunités à te proposer, à toi ou à ton église. Il y a des voyages découvertes, il y a des voyages de courte durée, il y a des engagements envers des peuples non atteints, simplement en commençant par la prière. Il y a des outils pour aller à la rencontre des cultures et des gens qui sont autour de vous. Il n'y a pas forcément besoin de voyager pour se retrouver dans un contexte transculturel. Etc., etc. Beaucoup de possibilités. Surtout, il n'y a aucune excuse pour dire « je ne sais pas où est ma place dans l'histoire de Dieu ». On vient de voir ensemble que depuis la Genèse jusqu'en 2016, Dieu a parfaitement accompli son plan pour que des hommes de toute nation et de toute tribu soient sauvés. Il l'a fait avec des hommes et des femmes ordinaires, imparfaits mais passionnés par le désir de vivre et proclamer l'amour de Christ. Est-ce que tu as une passion pour Dieu? Est-ce que tu réalises l'héritage extraordinaire que tu as reçu? Et tu verras, quand tu mets un pied dans la mission, dans l'histoire de Dieu, ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu et ta vision du monde changent radicalement. Et je te souhaite de vivre cela en trouvant et en prenant ta place dans l'histoire de Dieu. C'est certainement un acte d'obéissance que Dieu te demande de faire là, mais c'est surtout un immense privilège de pouvoir travailler aux côtés de Dieu. Alors ne t'en prive pas. Merci.
Merci Gilles. Et merci Myriam. Merci de votre témoignage. Merci du travail que vous faites. Et avant que nous prenions la scène qui a été préparée, il faut toujours se nourrir avant de partir en voyage, n'est-ce pas? Il faut prendre des forces et le Seigneur y veille. Donc, j'aimerais qu'une ou deux personnes prient pour le développement de la mission, ce développement moderne, nécessaire, dont nous a parlé Gilles.